La CPTS des Bauges, la boussole qui guide votre santé vers de nouveaux sommets.
Si vous y avez échappé cet été, vous n'y échapperez peut-être pas avec la cueillette des champignons ou avec les longues balades en forêt en regardant les feuilles tomber. Et oui, on parle des tiques de plus en plus présentes, notamment dues au réchauffement climatique puisqu'elles n'ont plus froid l'hiver. Et aujourd'hui, pour vous parler de ces tiques et de la maladie associée qui est la maladie de Lyme ou de Lyme, je reçois Maude Duchesne, infirmière libérale et présidente de la CPTS. Bonjour Maude.
Bonjour.
Catherine Gou, infirmière libérale et vice-trésorière de la CPTS. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Et Edmond Guillot, qui est le coordinateur de la CPTS. Bonjour,
bonjour
Edmond. Alors, les tiques, mais qu'est-ce que c'est donc que ces petites bêtes, Maude ?
Ah ah, qu'est-ce que sont ces petites bêtes qui nous embêtent ? Donc, les tiques, c'est des acariens parasites. Et dans les Bauges, comme partout en Europe, l'espèce qu'on va trouver de façon plus courante, donc c'est celle qu'on appelle la tique du mouton ou la tique du bois. Et contrairement aux moustiques, par exemple, les tiques ne volent pas, mais ils vivent au sol, dans la végétation, et puis ils attendent le passage d'un hôte animal ou humain pour s'y accrocher férocement.
Et donc, là, je le disais, elles sont de plus en plus actives, notamment dues au réchauffement. Ouais. Et pourquoi ?
Eh bien, parce qu'en fait, elles sont actives dès que la température dépasse 7 degrés, donc, c'est-à-dire au printemps et à l'automne. Et il y a un pic, effectivement, au printemps, entre mai-juin, et puis en fin d'été, septembre-octobre. Et comme tu le disais, les hivers sont de plus en plus doux et l'humidité prolonge leur présence sur le terrain, et particulièrement des Bauges.
Catherine, où est-ce qu'on va pouvoir les retrouver, ces petites bébêtes ?
Alors, ces petites bébêtes, les tiques, apprécient les zones boisées et humides, les haies, les fougères, les litières des feuilles et les herbes hautes. Donc, on en rencontre dans les sous-bois, les clairières, les prairies humides, les bords des chemins, des rivières et même des jardins peu entretenus. Les zones fréquentées par la zone sauvage aussi, chevreuils, rongeurs, oiseaux et le bétail. Les Bauges, massifs montagnards préservés, sont un terrain particulièrement favorable à leur développement. Biodiversité riche, écosystèmes humides et nombreux passages humains.
Oui, autant dire qu'on a toutes les chances d'en rencontrer quand on se balade par ici.
Voilà, tout à fait.
Edmond, comment est-ce qu'elles vont faire pour... Parce qu'elles seraient juste présentes, mais elles piquent en plus.
Alors en fait, les tiques ne sautent pas et ne tombent pas des arbres. Elles grimpent sur la végétation jusqu'à 1 mètre de hauteur maximum et s'accrochent à l'hôte lorsqu'ils passent à leur portée, que ce soit un être humain ou un animal. Elles cherchent alors une zone chaude et fine de la peau pour mordre, souvent derrière les genoux, sous les bras, au pli de laine, à la racine des cheveux ou dans le dos, et chez les enfants assez régulièrement au cuir chevelu ou derrière les oreilles. La morsure est indolore, on ne la sent pas, la tique injecte un anesthésiant local et reste parfois accrochée plusieurs heures, plusieurs jours avant qu'on se rende compte qu'elle est présente, le tout pour se gorger de sang de la personne capturée.
C'est génial. Donc Maud, pour éviter d'avoir un mini Dracula sur soi,
c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors déjà, avant de sortir, quand tu as prévu une balade, essaye de porter donc des vêtements qui sont plutôt longs, clairs et couvrants. Et tu peux mettre les chaussettes par-dessus le pantalon. Tu peux utiliser aussi des répulsifs qui sont efficaces contre les tiques. Alors, toujours, on fait attention à l'environnement et on les choisit de façon écologique. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est attacher les cheveux. Donc, c'est mon cas aussi. Donc, du coup, moi, souvent, je mets une casquette où tu fais un chignon, une queue de cheval. Tu évites les herbes hautes et surtout en lisière de forêt. On les trouve particulièrement là parce qu'il fait assez humide, en fait, dans ces endroits-là. Et après une sortie, une balade, ou quand tu as travaillé au jardin, ou etc., c'est bien t'inspecter minutieusement le corps, donc dans les 2 heures qui suivent, et particulièrement, comme le disait Edmond, dans les plis, donc les aisselles, au niveau du cuir chevelu, ça peut être derrière les oreilles aussi, autour du nombril, là où il fait chaud et humide. Voilà, donc te doucher aussi rapidement, ça fait tomber si jamais tu en as une petite qui se balade et qui ne s'est pas accrochée. Changer tes vêtements et puis évidemment bien inspecter les enfants, les personnes âgées et les animaux de compagnie. Il existe aussi des répulsifs spécifiques pour les animaux.
C'est la boussole santé avec la CPTS sur Radio Alto. Alors Catherine, si jamais on s'est fait mordre par une tique, on ampute le membre touché ?
Non, pas le membre touché. Après, les consignes qu'on va vous donner, c'est quand on s'aperçoit qu'on s'est fait piquer. Après, voilà, c'est dès que possible, on va dire. Donc, en premier lieu, retirer la tique le plus rapidement possible, dès qu'on s'en aperçoit. À l'aide d'un tire-tique, les consignes, attraper la tique au plus près de la peau, tirer doucement, sans tourner ni écraser. Ne pas utiliser d'alcool, d'huile, de vinaigre ou de chaleur, cela augmente le risque d'infection. Deuxièmement, une fois la tique retirée, désinfecter soigneusement la zone à l'antiseptique. Donc ça, vous trouvez des mini-doses en pharmacie. Après, vous surveillez la zone pendant un mois. Donc il faut se rappeler où on l'a eu. Donc en cas d'érythème migrant, c'est-à-dire un érythème, une rougeur qui s'agrandit au fil du temps, de fièvre, fatigue ou douleur inexpliquée, consultez un médecin. Un traitement antibiotique précoce est très efficace et évite les complications. On a aussi la possibilité de signaler la piqûre sur l'application Signalementique pour alimenter la recherche scientifique.
Alors, comme la CPTS des Bauges, elle a l'énorme avantage de s'adapter au territoire dans lequel on vit. Edmond, dans les Bauges, est-ce qu'il y a des conduites particulières à tenir ?
Alors, dans un territoire comme les Bauges, avec ses forêts, ses prairies, ses zones agricoles, les tiques font partie du paysage naturel. La meilleure protection qu'on peut mettre en œuvre est une bonne information de tous et des réflexes qui sont adaptés. Pour les randonneurs, les campeurs, les naturalistes, les agriculteurs, les vététistes, on peut appliquer les mesures préventives à chaque sortie. Pour les familles et les visiteurs, sensibiliser les enfants, surveiller les zones de peau peu visibles, en particulier en retour de balade. Pour les professionnels de santé, pensez à la maladie de Lyme devant des symptômes diffus, même en l'absence de souvenirs de piqûres. La morsure est souvent non ressentie, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, en fait, il injecte un anesthésiant qui fait qu'on ne sent pas forcément la piqûre. Et puis pour les collectivités et les communes, entretenir les chemins, faucher les bords de sentiers et informer la population locale et touristique. I like the way that you make promises that you can't keep. How you tell a girl to rock your world and shine into the sheets. You're calling me the girl of your dreams. Oh, really? Honestly, yeah, I think you're just a tease. You tell me that you're sweet, but I just see your bitter written insecurities. You say you serve to please. Is that what you believe? Cause all I ever hear about is me, me, me. God, you're just a blood sucker. Yeah, you're draining all the hope out of me. I hate your mother. Don't think you're about to beat off of me. Cause I'm gonna find a real man who ain't gotta pretend that he knows the ways around a woman like me. I don't need a blood sucker. Just draining all the life out of me. I think you're special. Don't get me wrong. It takes a special kind of man to piss me off.
Après Bloodsucker de Seal, on retrouve la CPTS pour parler des tiques. Moi, j'aimerais bien quand même savoir pourquoi cette bestiole a son émission propre et qu'elle n'était pas avec les fourmis, les moustiques et les guêpes. Il y a des risques à se faire mordre par une tique?
Oui, alors la tique, elle ne transmet pas toujours une maladie, mais quand elle le fait, il peut s'agir donc de maladies potentiellement graves. Alors, la maladie de Lyme, c'est la plus connue, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'encéphalite atique qui atteint le cerveau, et des maladies qui ont des noms un petit peu barbares, qu'on va peut-être juste nommer, mais qu'on ne va pas développer, comme la tularémie, pardon, ou la babésiose, etc. Mais moi, j'ai du mal à les dire, je les connais pas tout très très bien. Voilà, c'est des maladies qui sont graves, mais qui sont très rares en France. Par contre, la maladie de Lyme, donc on l'appelle aussi encore la borréliose de Lyme, et elle, c'est une affection qui est bactérienne, qui est transmise à l'humain par la morsure d'une tique qui va être elle-même infectée. Et cette maladie, elle est présente dans toute la France, et il y a une forte concentration de ces cas dans les zones boisées humides, et comme dans le massif des Bauges.
Si on s'attarde un peu sur cette maladie de Lyme, Catherine, quelle est la cause de cette maladie et comment elle se transmet ?
La cause de la maladie est une bactérie de la famille des Borrelia. Elle est transmise exclusivement par certaines tiques. Toutes les tiques ne sont pas infectées, mais dans les zones à risque, entre 10 et 30% des tiques adultes peuvent l'être. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. La tique doit rester fixée plusieurs heures pour qu'une transmission de la bactérie ait lieu. C'est pourquoi un retrait rapide est un geste de prévention essentiel. Donc l'inspection corporelle des humains et des animaux de compagnie est essentielle lors du retour de balade.
Ok, donc si on l'enlève assez tôt, normalement il n'y a pas eu le temps de transmettre la bactérie. S'il s'avère qu'elle nous a échappé, parce que c'est vraiment fourbe ces bestioles, aide-moi, une fois qu'on a cette maladie, qu'elle a été diagnostiquée, comment ça se passe?
Alors en fait, l'évolution de la maladie se déroule en trois phases. Une première phase qui est la phase précoce localisée, qui survient dans le mois, dans les jours et dans le mois suivant la morsure, c'est la phase la plus fréquente et la plus facile à traiter. Elle se manifeste souvent par une tache rouge, ronde ou ovale, qui s'élargit progressivement autour du point de la piqûre, souvent sans douleur ni démangeaison, on l'a dit tout à l'heure puisqu'il y a un anesthésiant dans la piqûre, et parfois de la fatigue, des douleurs musculaires ou des maux de tête. À ce stade, un traitement antibiotique prescrit sans délai permet une guérison rapide sans conséquence. Deuxième phase un peu plus complexe, la phase disséminée précoce. Donc celle-là apparaît dans les semaines et les mois après la morsure. Si la bactérie n'a pas été éradiquée, elle peut se propager dans l'organisme et provoquer plusieurs symptômes. Des douleurs articulaires migrantes dans les genoux, les épaules, les chevilles. Des troubles neurologiques. Fourmillement, paralysie faciale, fatigue cognitive, et parfois des manifestations cardiaques comme des troubles du rythme cardiaque. Cette phase peut être un peu déroutante car les symptômes sont variés, intermittents et parfois difficiles à lier à une piqûre qu'on a oubliée ou qu'on n'a même pas nécessairement ressentie. Et puis on a une troisième phase qui est dite phase tardive, qui intervient après un délai beaucoup plus long, qui peut se compter en mois, voire en années. C'est très rare, mais ça peut survenir en l'absence de traitement et ça peut provoquer des arthrites chroniques, des troubles neurologiques persistants, des difficultés de concentration, des douleurs chroniques, des troubles de la mémoire même parfois, et une atteinte de la peau qui peut parfois arriver aussi. À ce stade, le traitement est plus long, et la récupération parfois incomplète.
C'est la boussole santé avec la CPTS sur Radio Alto. Alors Edmond vient de nous dresser un portrait de la maladie avec les symptômes quand même les plus vastes du monde. Comment on arrive à un diagnostic, Maud ?
Alors, le diagnostic, il repose avant tout sur l'observation des signes cliniques, donc tout ce que vient d'exposer Edmond. Et en premier lieu, ça va être l'apparition d'un ce qu'on appelle l'érythème migrant, donc cette rougeur. Voilà, cette simple rougeur va suffire à poser le diagnostic et puis à commencer un traitement antibiotique, hein, puisqu'on a dit que c'était une bactérie, et sans attendre la prise de sang. Dans les formes un peu plus avancées, on va faire ce qu'on appelle une sérologie, donc c'est-à-dire une prise de sang, qui va permettre de détecter la présence d'anticorps qui seront dirigés spécifiquement vers la bactérie de la boréliose. Mais elle peut être quand même difficile à interpréter. C'est un petit peu la difficulté dans cette maladie. Parce que la sérologie, donc la prise de sang, peut être négative au début de l'infection. Et au contraire, elle peut rester positive longtemps après la guérison. C'est pour ça que des fois, on se dit « oui, mais c'est positif, oui, mais ça ne veut pas dire que tu as la maladie, etc. » encore. Et voilà pourquoi le diagnostic, il repose toujours sur l'association de plusieurs éléments qui vont être les symptômes, comme on l'a expliqué, le contexte de piqûre, parfois on ne s'en souvient pas malheureusement, et l'évolution clinique, c'est-à-dire l'évolution des symptômes du patient.
Catherine, quel est le traitement qui peut être préconisé sur ce genre de maladie ?
Alors, le traitement principal repose sur la prescription d'antibiotiques ciblée sur une durée qui varie de 14 à 28 jours selon les cas. C'est le médecin qui établit l'ordonnance. Le traitement pris rapidement dès les premiers signes permet une guérison complète dans l'immense majorité des cas. Dans les formes plus tardives, une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée peut être nécessaire en association avec neurologue, infectiologue, rhumatologue. Mais c'est quand même des cas plus exceptionnels.
Alors, on le disait tout à l'heure, il y a pas, c'est toi qui le disais, Edmond d'ailleurs, il n'y a pas toujours une récupération complète. Donc, qu'est-ce qui se passe après le traitement, s'il s'avère que ça, on n'est pas à récupération complète.
Alors dans des cas rares, et heureusement d'ailleurs, certaines personnes rapportent des symptômes persistants après le traitement. Une fatigue chronique, des douleurs diffuses, des troubles cognitifs. On parle alors de symptômes et de syndrome post-Lyme. Il ne s'agit pas d'une infection active, qui d'ailleurs la rend difficile à détecter, mais plutôt d'une réponse inflammatoire ou neurologique résiduelle. Ce syndrome est encore en cours actuellement. Il nécessite une approche globale axée sur le soulagement des symptômes, le repos et parfois sur un accompagnement psychologique.
Et donc, comme d'habitude avec la CPTS, on va nous dire si tu veux pas la maladie, il faut la prévenir.
Alors, comme d'habitude, la meilleure réponse, c'est la prévention. Et c'est l'arme la plus efficace, évidemment. Alors ça passe, on l'a dit tout à l'heure, hein, par une protection lors des sorties en nature, avec, si possible, des vêtements longs, des répulsifs, une inspection précise au retour pour bien vérifier qu'il n'y a pas eu de piqûre, le retrait rapide des tiques, si on s'aperçoit effectivement que le tic est accroché quelque part sur la personne, la connaissance des signes précoces pour ne pas laisser la maladie évoluer, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a quelques symptômes, il faut y prêter attention et dès qu'on les constate, il faut se tourner vers son professionnel de santé.
Très bien. Alors Maude, sur cette bestiole qui nécessite à elle seule une émission complète, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé ?
Oui, alors déjà, dire que la maladie de Lyme, ce n'est pas une fatalité et puis ce n'est pas une obligation à chaque fois qu'on est piqué par une tique de développer la maladie, ça on l'a bien compris. Après, au-delà de ça, la maladie de Lyme commence à être une maladie qui est bien connue, elle est bien surveillée, elle est bien traitée, mais lorsqu'elle est détectée tôt. Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est de se dire que voilà, il faut, dès qu'on a une piqûre de tique, c'est pas grave, on l'enlève, mais on surveille. Et voilà, ne pas céder à l'angoisse face à chaque morsure de tique, mais plutôt adopter des gestes simples de protection et puis de vigilance. Et on consulte surtout sans tarder si des symptômes apparaissent. C'est parce qu'évidemment, comme on le disait, dans la région des Bauges, voilà, il y a beaucoup de forêts, il y a une faune qui est très importante. Et le fait de se regarder après une balade, de faire attention avant d'y aller, cela fait partie des réflexes en fait, qu'il faut intégrer pour profiter pleinement de la nature en toute santé. Et si on est spécifiquement sur la tique, on sait qu'elle est invisible, qu'elle est silencieuse et que c'est quand même aussi un enjeu de santé environnementale. Et tu sais que c'est un sujet qui est important pour nous au sein de la CPTS. Donc, on ne veut pas la banaliser, on ne veut pas non plus que ça devienne une source de panique, mais comme le disait très justement Edmond, la prévention et la réactivité, c'est les meilleures armes face à ce petit fléau quand même que l'on connaît depuis quelques années dans nos belles régions de forêt. Voilà, donc quand on revient de forêt, on inspecte ses mollets et le reste du corps. Voilà.
Donc, cueilleurs de champignons, baladeurs de forêt, vous le savez, on se regarde après. Merci beaucoup Maud, Catherine, Edmond pour ce moment de prévention.
Merci.
Merci, au revoir.
Retrouvez tous les renseignements sur la CPTS des Bouges, ses actions, ses professionnels et ses messages de prévention sur www.radioalto.info à la rubrique Émission des partenaires.